merci de vous joindre à nous. Vous êtes sur Radio Orient, il est tout juste 17h, le point de l'actualité avec vous, Nadia Bencher. Au sommaire de cette édition en Allemagne, première expulsion d'un Syrien vers Damas depuis 2011 sur fond de durcissement migratoire. Au Yémen, accord à Oman pour un échange d'environ 3000 prix entre le gouvernement et Houthi, l'ONU et le CICR saluent une avancée. Notre dossier du jour, Coupe d'Afrique des Nations ou quand le sport devient un levier d'influence à l'aube du Mondial 2030. Les explications tout à l'heure d'Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Avec notre page sport spéciale Cannes 2025 avec Mounir Kamouri, ce sera en fin d'édition. Bonsoir à tous. Un influenceur algérien interpellé ce lundi après la diffusion d'une vidéo où il insulte des policiers en intervention et incite un jeune homme à frapper l'un d'eux, âgé de 29 ans. L'influenceur avait déjà été condamné en janvier à 8 mois ferme pour apologie du terrorisme et visé par une OQTF. Faute de laissez-passer délivré par Alger, il avait été assigné à résidence après sa sortie du centre de rétention en novembre. L'Allemagne annonce avoir expulsé mardi un Syrien vers son pays, une première depuis le début de la guerre civile en 2011, selon le ministère de l'Intérieur. L'homme condamné notamment pour vol aggravé, violence et chantage a été remis aux autorités à Damas. Un Afghan a aussi été expulsé, le deuxième cette semaine. Berlin justifie ses renvois par la volonté d'éloigner les délinquants dans un contexte de durcissement migratoire sur fond de poussée de l'extrême droite. L'armée libanaise annonce qu'un de ses soldats figure parmi les trois morts d'une frappe aérienne israélienne lundi près de Saïda dans le sud du Liban. Israël affirme avoir visé des membres du Hezbollah et évoque une personne servant aussi dans les services de renseignement libanais. Version que dément un responsable de l'armée libanaise qui juge faux de présenter le soldat comme membre du Hezbollah, y voyant un prétexte pour justifier l'attaque. L'armée israélienne dit avoir ouvert une enquête après la mort d'un adolescent palestinien de 16 ans, tué samedi par des soldats à Qabatieh, au sud de Jénine. L'armée a affirmé qu'il avait lancé une brique sur des militaires qui ont riposté par des tirs. Mais une vidéo de surveillance circulant en ligne ne montre pas l'adolescent jeter quoi que ce soit. L'armée indique que les images sont à l'examen. Le Parlement israélien a voté un amendement prolongeant jusqu'au 31 décembre 2027 la possibilité d'interdire la diffusion des médias étrangers jugés dangereux pour la sécurité de l'État. La loi adoptée en avril 2024 pendant la guerre à Gaza visait notamment Al Jazeera, qualifié par les autorités israéliennes d'organe de propagande du Hamas. Le gouvernement yéménite et les rebelles houthis annoncent un accord à Oman pour un échange d'environ 3000 prisonniers, le plus important à ce jour s'il se concrétise. Selon les deux camps, 1700 détenus du camp gouvernemental seraient libérés contre 1200 côté houthi, dont 7 saoudiens et 23 soudanais. Enfin, en Tunisie, le secrétaire général de l'UGTT a présenté sa démission selon un responsable de la centrale syndicale. À la tête du puissant syndicat depuis 2017, Nourdine Taboubi quitterait sur fond de conflits internes, notamment autour de la date du prochain congrès. Le syndicat dénonce un blocage du dialogue social et maintient cependant une grève générale le 21 janvier. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite pour le dossier du jour. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient et place à présent au dossier du jour, le sport comme levier diplomatique à l'occasion de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, le royaume qui accueillera le mondial de football en 2030, analyse du lien entre influence géopolitique et grande compétition sportive avec Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, on l'écoute.
C'est un galop d'essai pour la Coupe du Monde qui va avoir lieu en 2030 et la manière dont le Maroc entend gérer cette Coupe d'Afrique des Nations, comme elle l'a fait en 2004, précédente édition, montre à quel point le football, et singulièrement le sport, est devenu un pilier important de la diplomatie marocaine. On dit que le football est la troisième pilier de la diplomatie marocaine, après la diplomatie officielle, la diplomatie spirituelle et la diplomatie sportive, qui devient un outil de soft influence. D'ailleurs, la preuve en est avec les moyens considérables mis pour la mise aux normes des infrastructures, les 1,3 milliard d'euros qui sont investis dans les 6 stades qui vont accueillir la Coupe du Monde, dont certains accueillent déjà la Coupe d'Afrique des Nations qui a débuté le 21 décembre à Rabat, à Casablanca, à Fès, à Tanger, à Agadir, à Marrakech, et notamment le grand stade Hassan II de 115 000 places qui va accueillir le match initial, montrant à quel point le Maroc a investi dans cette diplomatie d'influence à travers le sport, comme du reste d'autres pays l'avaient fait avant elle. Je pense notamment au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis.
Avec ce mouvement dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, le mouvement Gen Z 212, hein, qui a récemment fait part de sa colère contre l'argent investi dans les stades, alors que la santé et l'éducation en manquent, et le roi Mohamed VI avait d'ailleurs dit comprendre les doléances de cette jeunesse.
Oui, absolument, avec l'idée de ne surtout pas céder à un Maroc à deux vitesses, un Maroc qui verrait les investissements actifs dans les infrastructures, les 6 stades que j'ai évoqués précédemment, les instituts de formation, parce que le Maroc a investi aussi, en particulier depuis 2014, à travers l'Institut, l'Académie Mohamed VI, qui vise à créer la nouvelle génération des futurs sportifs de haut niveau, notamment ceux qui vont briller pour la Coupe du monde en 2030. Effectivement, avec cette idée qu'il ne faut pas créer un hiatus entre, d'un côté, un Maroc qui a besoin d'investissement dans les infrastructures nécessaires, les hôpitaux, les écoles, et en même temps des dépenses qui sont présentées parfois comme un peu trop dépensières, donc les 1,3 milliard d'euros nécessaires à la reconstruction ou à la construction des 6 stades, des mégastades pour l'horizon 2030. Mais au-delà de tout ça, il y a la vocation de la part du Maroc de faire en sorte qu'il y ait une cohérence territoriale et que l'ensemble des régions bénéficient de cette nouvelle sorte d'influence du sport. On parle beaucoup du football, on parle beaucoup des Lions de l'Atlas, on parle beaucoup de l'équipe féminine de football, on parle beaucoup aussi de l'équipe des jeunes qui a brillé dans des précédents championnats, notamment des championnats africains. Mais on oublie que le Maroc investit dans d'autres secteurs sportifs, faisant un peu comme l'a fait le Qatar depuis quelque temps, le parallèle avec une diplomatie d'influence, notamment avec l'investissement dans un autre secteur, qui est l'autre secteur prioritaire, qui est le e-gaming ou le e-sport, puisque le Maroc veut être la plateforme, au moins africaine, pour ne pas dire plus globale, sur cette question, également avec des investissements massifs.
C'était Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité, au micro de François-Xavier de Calonne. Place à présent à notre page sport spéciale Cannes 2025. On retrouve Mounir Kamouri. Bonsoir.
Bonsoir Nadia.
Hier, la Cannes nous a offert son premier grand frisson avec la victoire de l'Égypte dans le temps additionnel.
Oui, absolument. Ce qu'a fait l'Égypte hier soir, c'est tout sauf anodin. Un match compliqué face au Zimbabwe, beaucoup de doutes. Et puis qui d'autre que Mohamed Salah pour tout renverser dans les derniers instants. On remettra ce scénario en perspective ce soir. Et surtout ce que ça dit du vrai niveau des pharaons dans cette Cannes.
La polémique du jour, et même d'avant la Cannes, c'est la libération tardive des joueurs par la FIFA.
Exactement, c'est un sujet énorme parce qu'on parle d'une CAN où les joueurs sont arrivés 6 jours avant le coup d'envoi au lieu des 15 jours prévus. C'est un casse-tête pour les sélections, ça pose des questions de respect, d'équité, de préparation. Et ce soir, on va entendre la réaction du sélectionneur du Mali qui a taclé la FIFA.
Mounir, un dernier mot avant de se quitter. Demain, vous allez aborder un sujet crucial, l'arbitrage et aussi la toute première femme arbitre de cette CAN 2025.
Oui, demain on va poser une vraie question. Est-ce que cette CAN peut enfin tourner la page des polémiques arbitrales? Ça, je n'en suis pas très sûr. Parce qu'on s'en souvient tous, erreurs, décisions incompréhensibles, match arrêté trop tôt, avec ce match référence Tunisie-Mali qui reste dans les mémoires. Et cette année, on a un symbole fort, Shamira Nabada, d'origine ougandaise, l'unique femme arbitre de la compétition, qui suscite beaucoup d'attentes et ce qu'elle représente pour tout le continent.
Rendez-vous donc demain parce que ce sera un sujet passionnant. Merci Mounir, on vous retrouve ce soir aussi dans Sport sans frontières, spécial Cannes à 18h20. C'est la fin de de cette édition. Merci d'y avoir prêté attention. Merci beaucoup à Raymond Join pour la réalisation. Excellente suite de programme sur Radio Orient.